9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bonjour à toutes et à tous. Saison 2, épisode 12 de votre club de l'été, le lieu où la culture, le patrimoine et la gastronomie ont trouvé droit de cité, où les sourires et les fous rires sont devenus des ingrédients indispensables. 2 heures de direct et de coups de cœur donc, pour une émission au cours de laquelle il sera question notamment de femmes, de musique, de bande dessinée, de calanques et de poissons. Un voyage pour mettre en éveil tous nos sens avec 2 experts au sens très très développé, Lise Pressac, experte tourisme et culture, et Olivier Pouls, expert gastronomie. Bonjour les amis.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Votre humeur du jour en un mot?
Joie.
Ah bah voilà, ça c'est Lise Pressac et Olivier Pouls.
Chaleur.
Chaleur. Pourquoi, vous avez chaud ou...
Je me dis que les jours qui vont venir, ça, il va vraiment faire chaud. Donc on a envie de se calfeutrer chez soi et d'écouter le club de l'été. Vous voyez,
c'est... Ah c'est bien, vous faites votre auto-promo en fait. D'accord, ok. Lise, notre invitée a vécu à Martigues. Alors certes c'est dans le sud, mais nous ne sommes jamais allés dans ce coin. Alors qu'est-ce que nous allons visiter?
On va aller dans les Calanques, voilà, on va faire une petite balade.
Ah ben, j'y suis déjà. Olivier, on déguste quoi à Martigues?
Eh bien moi je vous emmène en mer, on va aller prendre le frais justement.
D'accord.
Vous vous embarquez sur un bateau avec moi?
Avec plaisir. Pourquoi pas.
On va à la pêche?
Allez, oui. Super, c'est parti. Nous terminerons l'émission avec une nouvelle recette. Cette semaine c'est une spéciale pique-nique et vous allez nous conseiller une recette de salade de riz.
Oui.
Vous avez intérêt à faire original.
Eh bien un peu original, oui.
Ah bon, d'accord, ouais. Ok. Et un vrai faux?
Un petit pas de travers.
D'accord, avec un petit vrai faux aussi?
Un petit vrai faux aussi sur les légumes. En ce moment il y a plein de légumes frais sur les étals des marchés. On nous dit que c'est bon pour la santé et c'est vrai, mais est-ce que les légumes frais contiennent plus de vitamines que les légumes congelés, par exemple?
Bon, vous nous dites rien pour l'instant. C'est la question du jour. On attend le suspense à la fin de l'émission. 2 heures pour apprendre, découvrir, s'enrichir. Grâce à vous, notamment, vous avez tous votre carte du club. À vous de réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend avec le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invitée est chanteuse, une voix grave, envoûtante, pour une femme engagée. Chère invitée, les quelques sons qui suivent racontent des tout petits bouts de vous.
C'est quoi ce machin? Un chasse-mouche ou bien quoi?
Ce sont mes cheveux naturels. Dès ma naissance, j'ai porté la tresse.
Don't you know, talking about a revolution sound.
Le rock qui a changé le siècle. Un défaut de naissance, il est masculin, un truc de mec pour les mecs d'abord.
Être rock ou être soi, c'est la même chose. T'es en accord avec... la vérité.
Stop. Try again.
Les raisons de penser que Renaud Lavillenie peut battre son propre record du monde, c'est qu'il est beaucoup plus attendu que l'année passée. Vous avez complètement surpris.
Comment?
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes.
Bonjour Imani.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le club de l'été sur Europe 1. Imani, vous serez notamment en concert le 16 octobre prochain à Paris. Vous apparaissez dans l'excellent documentaire de François Armanet, Oh les filles, une histoire du rock français racontée par des artistes femmes. Et le 18 octobre sortira un live enregistré au Casino de Paris, un live à découvrir en musique et en images grâce au CD et au DVD. On entend un petit extrait, on va l'écouter. Juste dans quelques minutes. Nous allons reparler évidemment de tout cela, Imani, mais quels sons vous avez détectés dans ce petit portrait sonore qu'on a fait de vous?
Quels sons?
Oui, qu'est-ce que vous avez entendu?
Alors, il me semble que j'ai entendu un Prince à New York, Eddie Murphy.
Vous pouvez expliquer pourquoi?
Parce que quand j'étais ado, c'était mon film préféré. Ben ouais, c'était pas Audiard.
C'est bien aussi.
Ben ouais, j'adorais ce film, je le trouvais drôle et stupide. Et puis quelque part, ça nous faisait rêver. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas Un prince à New York, c'est l'histoire d'un pays africain imaginaire qui a un prince, qui est Eddie Murphy, et il a sa vie toute tracée. Il est très riche, évidemment, et il doit se marier avec une fille qui s'appelle Imani Easy. C'est un mariage arrangé par ses parents, et lui, il ne veut pas. Et Imani Easy, elle était programmée pour être la femme parfaite, mais presque un robot, quoi, répond à tous les désirs de son mari. Et lui, il ne veut pas. Il veut une femme qui lui tient tête, qui a du caractère, faite de chair et de sang, quoi, oui. D'une certaine manière. Et voilà. Et donc, il part aux États-Unis, dans le Queens. Donc, pour ceux qui connaissent pas les États-Unis, c'est un peu comme aller, je ne sais pas moi, en banlieue et se dire
oui, banlieue parisienne,
voilà,
ouais.
En allant à Paris, en se disant que tu veux aller à la Tour Eiffel, mais tu t'atterris à Sarcelles.
Voilà.
Donc, mais donc voilà, le film est très drôle et débile et voilà. Et c'est là que
c'est bien vendu en tout cas.
Ça donne envie. Mais faut ça le donne, voir. Ça vraiment, donne envie de le revoir.
Je sais pas si ça a bien vieilli. Ça fait longtemps que j'ai
peut-être
pas.
Peut-être pas.
Mais
alors,
j'ai vu au moins 27 fois.
Je l'ai revu un gros bout grâce à vous hein, et en fait j'ai encore beaucoup ri.
Oui.
Donc ça que ça marche encore un petit peu quand même.
Faut l'avoir vu.
C'est mais parce qu'on l'a déjà vu.
Voilà.
Donc, ouais.
Je pense que si je le montre à une gamine aujourd'hui de 14 ans.
Oui, ça risque de pas passer.
Pas sûr. Faudrait voir. Faudrait que je fasse le test.
Donc on a entendu Un prince à New York. La voix de Tracy Chapman.
Oui. Voilà, il y a Tracy Chapman, parce que Tracy Chapman, c'est une de mes chanteuses préférées, c'est une de mes influences directes. C'est un jour, je l'entends et je pense que c'est un garçon. Et en fait, c'est pas du tout un garçon, c'est une femme. Et elle a une grosse voix comme la mienne. Et quand moi, j'étais jeune, je me disais que les filles avec des voix comme moi, il n'y en avait pas. Et donc, j'avais pas vraiment ma place en tant que chanteuse. Et quand elle arrive... elle fait de la place, quoi. Elle crée sa place et quelque part, elle participe. Oui, enfin, du coup, ça m'a aidé à entrevoir que c'était possible.
Et quelle place. On a entendu aussi la bande originale de Sous les jupes des filles, le film d'Audrey Dana que vous signez.
Elle est chouette, votre petit truc, parce qu'effectivement, d'un coup, il y a toute ma vie qui défile.
Et ben, c'est tout mais, sur votre
mais, vie. Non, mais que des choses positives, hein, non, vous avez remarqué.
Mais
hein.
C'est bien parce qu'on travaille, on ne se rend pas compte.
Oui, parfois on oublie
tunnel,
même hein, certaines
oublie,
choses.
Et puis ouais. Là, on prend 5 minutes et on se rend compte. Ah oui, tiens, j'ai fait ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Oui, j'avais fait la bande originale du film Sous les jupes des filles d'Audrey Dana, il y a quoi, en 2014 maintenant.
Exactement, oui.
C'est un projet assez spécial parce qu'effectivement, c'était que des femmes à l'écran, mais c'est aussi que des femmes dans la bande originale. Audrey Dana voulait des chansons, surtout. Et. Qu'avec des femmes, des chanteuses. Donc le travail, il a été super. Il a fallu écrire des chansons pour le film, mais surtout, il a fallu caster des chanteuses. Et oui. Donc j'ai rencontré des filles formidables qui n'étaient pas connues pour la plupart au départ. Certaines ont une carrière maintenant. Et donc ça, c'était un super beau travail. Et puis de là, et j'ai écrit Don't Be So Shy et Don't Be So Shy a
été
remixé
par
des Russes.
Ensuite,
par
des Russes, oui.
Et ça a changé beaucoup de choses.
Ah, moi, je préfère votre version à vous, hein, personnellement,
oui,
mais bon, voilà, que la version remixée.
Écoutez, moi aussi, je préfère ma version à moi.
On a également entendu un extrait de Oh les filles, donc le documentaire de François Armanet qui est en ce moment en salle et dans lequel vous témoignez. C'est une histoire du rock français racontée par des femmes, encore une fois. On a entendu la voix aussi de Marie-Zéven Gépé.
Ouais.
Ancienne athlète, qui est aujourd'hui commentatrice sportive. Pourquoi Marie-Zéven Gépé ?
Ma Marie, c'est ma grande sœur de... parce que quand j'étais jeune, j'ai été repérée par l'entraîneur de l'équipe de France de 100 hauteurs. Et comme ça, je faisais des UNSS.
Les UNSS, c'est les concours. Enfin, oui, c'est ça, c'est la compétition pour les athlètes.
Les établissements scolaires.
Ouais, établissements scolaires,
c'est
exactement.
Voilà. Et alors, j'avais pas de technique, pas de chaussures, rien du tout. Alors, je sais pas ce qu'il a vu en moi, mais...
Vous sautiez haut, tout simplement, peut-être.
Ouais. Je sautais très mal, mais je pense qu'il a vu le potentiel. Mais je sautais haut avec zéro technique, avec des baskets pourries.
Mais il s'est
pourries.
Pas trompé, parce que vous avez fait l'INSEP après.
Ah oui, après, je me suis entraîné à l'INSEP avec lui. Et il y avait Maryse. Maryse faisait partie de son groupe d'entraînement. Elle, ça a été le record woman de France de son hauteur pendant très, très, très longtemps. Je crois qu'il est tombé il y a pas très longtemps, son record. Et que elle était super. Il y avait pas beaucoup de filles dans le groupe. On y avait pas mal de garçons. Et moi, j'étais très très jeune. C'était ma grande sœur. Et c'est vrai que elle a réussi sa reconversion. Ça me fait hyper plaisir des fois quand je la croise justement quand moi je viens chanter au JO. Elle vient bosser truc. Mais c'est une grosse partie de ma vie. Je pense que beaucoup de choses ont commencé là.
Et puis on a entendu la voix de Nina Simone pour terminer. Alors, je me suis fait un petit plaisir pour tout vous dire, c'est parce que j'adore particulièrement cette chanson, Mr. Bojangles, qui en plus me renvoie à la lecture d'un livre que j'ai adoré aussi, d'Olivier Bourdeau, et que je vous recommande. Et je pense que c'est une de vos références aussi, Nina Simone.
Ah oui, Nina Simone, c'est mon top 3. C'est
dans votre panthéon d'artistes.
Voilà. Oui, c'est pareil, une voix atypique. Quand on y pense, même elle pensait pas qu'elle pouvait chanter au départ. C'est une pianiste dans sa tête et elle a une voix atypique et elle peut chanter. Elle a même une façon de chanter qui est très propre à elle, c'est-à-dire elle fait des notes qui sont. Elle chante comme un piano finalement, et des notes qu'on n'arrive pas à reproduire. Elle est engagée, elle est entière. elle est à la fois, ouais, c'est une femme dans tout ce qu'il y a de plus magnifique, de vibrant, de fragile, de fort.
Ouais. Et aussi une signature vocale forte.
Et, ouais, oui, c'est ouais. ce que je disais, une signature vocale forte.
Il y a qui d'autre dans le top 3? Tracy Chapman, Nina Simone, et s'il fallait en choisir une troisième?
Ah bah, c'est un troisième, c'est Bob Dylan, un et troisième pour moi, ouais.
C'est trois belles références même. Hein. Moi, je valide Club de l'été, là, je vous le dis tout de suite. Il paraît que vous aimez bien chambrer les autres, Imani. Vous avez une heure et demie bientôt, maintenant, pour le faire. Ne vous gênez surtout pas, surtout avec Olivier Pousse.
Oui. Qu'est-ce que nous j'ai fait avons... Je suis encore le seul homme dans cette
c'est
pièce.
C'est pour ça. Eh bien, vous êtes
plaignez-vous,
le seul.
Plaignez-vous,
voilà.
plaignez-vous.
Franchement, aujourd'hui, vous ne vous plaignez pas, j'ai l'impression.
Pas
d'accord, on est d'accord. Nous avons jusqu'à 11h, Imani, pour parler de musique et évoquer votre carrière, évidemment. Notre première pause musicale, eh bien, c'est vous qui nous l'offrez avec un extrait de ce live qui est attendu le 18 octobre. Save Your Soul, Imani est avec nous sur Europe 1.
I was at home. Usually I don't watch the news, cause maybe I'm not strong. Oh, I wish that they told the truth so that we could go on. They call it news, but it's so old, nothing good ever comes. And they take us for a fool. Is it me? Or is it always the same again? Or does it mean that we are the one to blame? Cause we see and we feel their pain in vain. Maybe we are the one insane, insane. And they were so small. For them they were playing ball, but it was a war zone. They heard a sound or maybe a blast, and a flash they were gone. Nothing but blood and broken bones, the warmth of our home. I felt the quivers and the moans. Is it me, or is it always the same again? Or does it mean that we are the one to blame? Cause we see and we feel their pain in vain. Maybe we are the one insane. To come to save our soul. Who's to come to save our soul? Who reach inside the hole? Then he goes on. The dancing dead on the crying song from the mother so strong. Willing the name, holding the grave, cause they're forever gone. Somewhere else we feel safe from the warmth of our home. I felt the quivers and the moan. Is it me, or is it always the same again? Or does it mean that we are the one to blame? Cause we see and we feel their pain in vain. Maybe we are the one insane, insane. Who's to come to save our soul? Who's to come to save our soul? Who will reach inside the hole? Save our soul, save our soul, save our soul. I want you, save our soul, save our soul, save our soul. I want you, save our soul, save our soul, save our soul. I want to save our soul. We'll reach inside the hole.
Et vous venez d'entendre un tout petit bout de la voix d'Imani qui chantait sur son extrait de ce live. Imani est avec nous effectivement jusqu'à 11h en direct sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1, Eva Rock.
Il est 9h24, vous êtes sur Europe 1, Olivier Pouls, vous validez l'horaire?
Oui, c'est vrai que depuis hier d'ailleurs, oui. Pas une seule erreur dans la lecture de l'heure. Ouais. Eva, bravo, voilà. Vous êtes en plein progrès.
Mais c'est bien. Nous sommes en direct sur Europe 1 pour votre rendez-vous estival, le club de l'été. Notre invité du jour est la chanteuse Imani. Imani, je me trompe toujours quand je donne l'heure, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je suis soit en retard, soit en avance. Je pense souvent qu'il est 23h.
Ah.
Voilà, c'est le décalage
horaire. C'est le fuseau horaire.
C'est le fuseau horaire. Exactement. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, via Twitter avec le hashtag Europe 1 avec Lise. Nous allons relayer vos messages et vos questions. Imani, à quel moment la musique s'est imposée à vous? J'ai entendu une interview de votre maman qui disait que dès que vous étiez enfant, vous commenciez à chanter. Mais est-ce que c'est vrai ou vous, quels souvenirs vous en avez?
Oui, quand j'étais petite, je chantais tout le temps. Après, oui, j'aimais chanter. Ça, c'est un truc qui est vrai. Ça me faisait du bien. Après, je ne me disais pas, je vais être chanteuse. Ce n'est pas une chose que je me disais. Parce que honnêtement, je ne pensais vraiment pas que c'était possible. Je ne pensais vraiment pas que c'était possible pour une fille comme moi. Je ne connaissais pas de chanteuse. Il n'y avait pas de chanteuse comme moi qui me ressemblait à la télé. Mes parents, en plus, mon père, il me répétait suffisamment qu'il n'était pas venu du bled, enfin des Comores, pour que je devienne chanteuse. Ce n'était pas l'idée, ce n'était pas le plan. Donc voilà, mais la musique, elle s'est imposée à moi beaucoup plus tard. C'est-à-dire que oui, je chantais et j'ai aimé la musique, mais c'est devenu une évidence comme la seule chose possible pour moi à faire quand je suis arrivée dans ma vingtaine.
Dans la 20 ans à peu près. Alors vous disiez, vos parents au début, faire chanteuse, c'était pas un truc qu'ils aimaient particulièrement. Mais quand ils vous voient partir à 17 ans à New York pour entamer une carrière de mannequin, qu'est-ce qu'ils pensent vos parents à ce moment-là?
En fait, je suis partie un peu plus tard. Je suis partie après le bac déjà, donc j'ai essayé de sécuriser deux, trois trucs.
J'étais pas sur le bac d'abord.
Bah oui, il y a quelques étapes comme ça. Et j'étais même à la fac et en fait, honnêtement, je m'ennuyais. Et quand, en fait, ça s'est fait par étapes. Je suis partie juste trois semaines au départ à New York pour une campagne. Et finalement, j'ai décidé de rester parce que ben, je savais qu'il fallait que je reste. Et donc, j'ai un peu... J'ai un peu
forcé la main
des parents. J'ai un peu à carotter mes parents, comme ça se fait beaucoup à cet âge-là. Je leur ai dit non, mais je vais prendre une année sabbatique. On ne sait jamais. Ici, il y a des choses à faire. La fac, je pourrais toujours reprendre, mais être maintien, plus tard, je ne pourrais pas l'être. Enfin, je suis arrivée... Mon père, il est très sensible aux arguments. Il faut avoir des bons arguments. Pour ça. donc, du coup, j'ai réussi à les convaincre et j'y suis allée. Maintenant, ils le savent, hein, je leur ai dit, et ils m'aiment toujours, mais je savais que je n'allais pas partir que pour une année.
Ah oui.
Mais je savais qu'ils n'étaient pas équipés pour accepter.
Oui, l'idée de partir pour plus longtemps. Plus longtemps. Olivier.
Vous gardez quel souvenir de cette époque de mannequin? Vous avez aimé ça?
J'ai aimé, puis j'ai pas aimé. C'est-à-dire que j'ai aimé la liberté. J'ai aimé le fait de me casser de chez moi, faut pas mentir. J'ai aimé le fait d'être seule dans une ville comme New York qui a tellement d'énergie. Enfin, j'ai pas besoin de vendre beaucoup New York. C'est une ville assez extraordinaire.
Vous étiez un peu la princesse à New York, là, du coup.
Avec beaucoup moins d'argent. Avec beaucoup moins d'argent, parce que voilà. Pour ceux qui ont vu le film, il est très très riche, le prince. Et moi, j'étais pas du tout très très riche. Mais j'en garde aussi et donc le mannequinat, ça m'a, j'ai voyagé, j'ai appris d'autres langues, j'ai rencontré des gens atypiques, insolites que j'aurais jamais rencontrés en restant dans mon petit quartier, ça c'est sûr. Mais je me suis ennuyée en étant mannequin, j'ai trouvé ça dur.
Ça fait quand même rêver beaucoup de jeunes filles encore aujourd'hui.
Je comprends parce que c'est du glamour, parce que c'est de l'argent, parce que... Mais moi, qui ai une fille maintenant, si jamais elle veut être mannequin, je vais essayer d'en dissuader subtilement.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'avoir les deux enfants? Ça a beaucoup bouleversé votre rapport à la musique, hein?
Ah oui, ça a changé plein de choses. Déjà, j'ai envie d'écrire un bouquin, mais un petit bouquin sur toutes les phrases qu'on disait avant.
Et qu'on ne dit plus. J'ai bien dormi.
Oh là là, moi, je ne peux pas fonctionner à moins de 8 heures de sommeil. Je peux pas fonctionner.
C'est foutu. Hein.
Donc ça a vachement changé. Le sommeil, le rapport au temps, ça a changé. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est la confiance. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi d'avoir des enfants.
Ah, c'est étonnant parce que souvent on dit que ça fait un peu peur, les responsabilités avec les enfants, etc.
Oui, c'est sûr. Non, mais ça, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est ça, musicalement, comme
d'accord,
vous m'avez posé la question dans la musique,
oui.
Ça m'a apporté confiance en moi. Dans le sens où quand j'ai eu mon premier fils, je me souviens, je le regardais et moi, j'étais en surpoids, sale, j'avais pas pris de douche depuis je sais pas combien de temps, fatiguée. Et en fait, il vous aime quand même. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, je me prends la tête pour rien du tout. Et je sais que même si c'était dur, après la première grossesse, je suis allée sur scène et en fait, j'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver. D'avoir une personne qui vous aime comme ça, de manière aussi inconditionnelle, en fait, ça vous rend indestructible.
On va continuer à parler de musique, Imani, avec vous. Vous allez nous faire partager un coup de cœur pour un documentaire. Et puis, ce sera l'occasion d'évoquer également votre engagement auprès de l'association Endomind, association qui vise à faire reconnaître l'endométriose comme une maladie handicapante. Et puis, on vous réserve aussi un coup de cœur et puis un petit cadeau. À tout de suite sur Europe 1.
Chère mamie, les vacances se passent très bien à l'arrière de la voiture. Papa s'est endormi dans son siège trop confortable. Pendant ce temps, moi je m'amuse à compter les Citroën C3 blanches avec un toit et des rétros rouges comme la nôtre. Bonnes vacances! Bisous, Léa!
Les vacances commencent par la route avec Citroën. Les conditions de la prime à la conversion gouvernementale changent au 1er août. Plus que quelques jours pour bénéficier d'offres avantageuses sur nos véhicules neufs ou d'occasion. Citroën.
Offre valable jusqu'au 31 juillet. Détails sur citroën.fr.
On prend le temps. On se détend.
Avec le club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été en présence de notre invitée, la chanteuse Imani. Imani, quand on vous a demandé quel était votre coup de cœur, vous nous avez dit le documentaire Les règles de notre liberté. C'est un film de Rakia Zedbachi et Melissa Berton, Oscar du meilleur court-métrage documentaire en 2019 et visible sur Netflix.
Demandez-lui d'abord.
Non, pourquoi pas toi ?
Les règles ?
Raconte.
Je suis gênée d'en parler.
Ça vous gêne ?
Je ne peux pas le dire.
Pourquoi êtes-vous si sérieuse tout à coup ?
Qu'est-ce qu'elle dit ?
À quoi c'est dû ? Que se passe-t-il dans notre corps ?
Elle veut savoir pourquoi les femmes ont leurs règles.
Pourquoi les femmes saignent ?
Imani, merci. Merci de nous avoir fait découvrir ce documentaire et j'espère que de nombreux auditeurs vont prendre le temps de regarder ce film de 26 minutes, tourné en Inde, à 60 km de Delhi à peu près, auprès d'un groupe de femmes qui fabriquent des serviettes hygiéniques. Des serviettes hygiéniques, symbole de liberté et d'indépendance des femmes. C'est ça ce film ? On peut le résumer comme ça ?
Ouais, je pense, oui. C'est un super beau film. Déjà, il est hyper bien filmé, il est très beau. Il n'est pas condescendant, il n'est pas larmoyant. Et il explique les choses telles qu'elles sont. Et on est dans ce petit village en Inde où les jeunes filles, quand elles commencent à avoir leurs règles, ça devient compliqué d'aller à l'école, ça devient compliqué d'avoir une vie normale parce que elles n'ont pas de serviettes hygiéniques. Et c'est des trucs de base en
mais
fait,
oui.
Et que nous ici on prend complètement pour acquis. Mais elle, eh ben, il n'y a pas de toilettes. Enfin, au début, les scènes où elle raconte que l'effroi que c'est d'aller s'isoler des autres pour aller changer ce qu'elles s'appelle des couches, enfin des trucs,
des tissus,
ouais. Voilà. Donc
éviter le regard des hommes en plus.
Des hommes. Ouais, ouais. Et puis d'ailleurs, il y a une séquence sur quand on demande aux hommes qu'est-ce que c'est
que les règles. Ils ne
savent, savent pas.
Une maladie, un truc qui arrive aux femmes.
Voilà, ouais. Mais c'est maintenant ce truc que ça se passe. Et donc, moi, il m'a touchée parce que il est beau dans tous les sens du terme, parce que à la fin, enfin, je vais pas tout vous raconter, hein, même si bon, ça dure que 26 minutes, mais voilà, et ces femmes, elles s'émancipent en fabriquant et ensuite en vendant ces serviettes autour d'elles, et du coup, elles libèrent aussi d'autres femmes, et c'est quand même cette espèce de chaîne virtueuse entre femmes.
Ah, on le voit très très bien, ouais,
et
tout à fait.
Ouais, c'est magnifique. Moi, je l'ai regardé deux fois de suite.
Ouais, mais je veux bien vous croire. Et alors, on n'a pas évoqué un extrait qu'on avait fait dans votre portrait sonore tout à l'heure d'un autre documentaire sur lequel vous avez posé votre voix, qui s'appelle Sprint, qui est un documentaire sur les sprinteurs américains qui ont marqué l'histoire du sport, de l'athlétisme. Je vous le recommande. J'ai vérifié, il est encore disponible jusqu'en 2023. Donc, vous avez largement le temps de le regarder sur MyCanal. Extraordinaire film. Alors, vous qui aimez l'athlétisme, en plus, je pense que vous êtes régalé à raconter l'histoire de Jesse Owens, de Carl Lewis, évidemment, de Tommy Smith, etc. Et vraiment, allez voir aussi ce documentaire et allez voir sur Netflix le documentaire Les règles de notre liberté. C'est un très, très beau film. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce documentaire. En parlant de femmes, je voulais vous faire un cadeau d'actualité en plus, Imani. Dimanche, la dessinatrice Pénélope Bagieux a reçu à San Diego, aux États-Unis, le prestigieux prix Eisner de la BD pour son ouvrage Culotté, c'est l'équivalent de l'Oscar en fait, hein, pour la bande dessinée.
Génial.
Culotté, qui a été publié en France en 2016, mais aux États-Unis qu'en 2018, c'est pour ça qu'il est récompensé. En fait, c'est 15 récits de femmes en dessin, 15 super nanas, hein, vous allez voir, qui ont bravé les normes sociales pour choisir leur destin. Alors ça va de Delia Akele, exploratrice, à Joséphine Baker, évidemment, en passant par Agnodice, gynécologue en moins 350 avant Jésus-Christ. Vous allez découvrir ces histoires de 15 femmes en bande dessinée. Et je vous le recommande vraiment.
Merci
Pénélope Bagieux aussi, qui s'intéresse
pour les vacances,
intensément à la cause des femmes, comme ce que vous faites avec votre association dont vous êtes marraine.
Oui.
J'ai oublié le nom déjà, en deux mots envoyés, Endomind, pardon, et qui essaye de faire de l'information sur l'endométriose. Vous voulez en dire deux mots ? Je crois qu'il y aura une course à pied d'ailleurs en novembre pour l'association, pour recueillir des fonds.
Endomind, c'est une association d'action qui vise à faire reconnaître la maladie de l'endométriose comme une maladie handicapante et qui vise aussi à ce qu'elle soit mieux prise en charge. Donc, elle crée des actions un peu partout. Ça fait longtemps que je suis leur marraine. Et le 10 novembre, il y a la deuxième course qu'on n'ait jamais fait. Nous sommes des filles. Et c'est le 10 novembre, ça s'appelle Endorun, c'est à Paris. L'année dernière, on avait vraiment peur. Vraiment, on s'est dit personne va venir et en fait on a explosé notre quota. On a dû pousser les murs. Et là, cette année, on a le droit d'avoir un peu plus de gens. Donc, il faut venir, il faut créer des équipes. À chaque inscription, c'est de l'argent qui va directement à la recherche. Voilà. Et qui aide aussi l'association à fonctionner et à pouvoir aider. Endomagne fait beaucoup de travail maintenant, main dans la main avec le gouvernement pour que les choses avancent. Donc, voilà, il faut monter des équipes. Et
il faut courir combien de kilomètres ?
10 kilomètres.
Olivier, nous, on a dit oui avec
une équipe.
Nous, on est déjà
vous
OK
êtes dans
pour
mon équipe.
À partir de combien on est une
vous
équipe ?
Vous voulez bien faire les 10 kilomètres avec nous, Olivier ?
Je vais travailler un peu cet été, mais Olivier, changer le régime alimentaire,
10 kilomètres,
acheter une paire de baskets.
Après, si les 10 kilomètres, pour vous, Olivier, c'est trop, vous pouvez toujours faire un chèque.
Ça, c'est à votre portée.
Ça, oui, c'est juste un geste de la main. C'est facile. Hein, vous n'avez pas besoin de beaucoup de muscles. Vous avez l'habitude de lever le coude, vous pouvez faire un chèque. Pardon, je vous chante, mais vous savez que voilà, c'est parce qu'on s'aime beaucoup.
Oui, bien sûr.
On peut le faire. Alors, évidemment, on va mettre toutes les coordonnées de l'association sur le site internet et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous retrouverez toutes ces informations. Pareil pour les références des documentaires dont on vous a parlé déjà depuis ce matin, 9h. Sans transition, je vous propose de rejoindre un papa, c'est un super papa qui adore ses enfants, même s'il se moque un peu d'eux dans son spectacle.
Moi j'ai 3 fils, à la maison c'est Game of Thrones. Si je tombe, c'est lui l'héritier, et il le sait. Et au nom de quoi ? Au nom de quoi dirige-t-il la maison ? Parce que ce sont des parents ! Mais qui les a transformés en parents ? 8 ans, mon fils c'est Mélenchon les gars. La famille, c'est moi !
Bonjour Vérino.
Bonjour.
Vérino, vous êtes humoriste, on vous retrouve sur scène mais aussi sur les écrans via YouTube et via une nouvelle plateforme que vous avez créée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous aviez peur qu'on soit en manque de vous en fait.
Bah, je savais que je vous manquais.
Oui, c'est vrai.
Qu'on s'était pas vu. Je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse quelque chose pour pouvoir lui reparler.
Et donc
Et donc j'ai monté cette plateforme là qui nous permet alors le combat est évidemment bien moindre par rapport au débat que je viens d'entendre, évidemment bravo à tous les interlocuteurs que je viens d'entendre, c'est génial, toutes ces actions pour les femmes, je suis évidemment féministe et je me soutiens évidemment.
Et c'est pour ça qu'on voulait vous avoir aussi ce matin, parce que je savais que vous étiez féministe, vous en parlez beaucoup dans le spectacle, et puis vous êtes un super papa en plus.
Ah bah merci, bah j'essaye d'en parler parce que je trouve que c'est important effectivement de faire passer des messages, pas que par la voix de ceux qui souffrent, mais par la voix de ceux qui sont concernés en tant qu'humains, quoi. Et en tant qu'humain, je suis concerné par le féminisme, évidemment, même si je ne suis pas une femme. Donc oui, évidemment, le spectacle, l'idée, c'est de pouvoir le diffuser au plus grand nombre. Moi, c'est ce qui me plaît, en fait, c'est de faire des blagues et que les gens puissent les entendre. Et monter cette plateforme me permet d'avoir une liberté totale, puisque je travaille indépendamment. Je suis pas soumis au choix d'une télé ou d'une grande plateforme. Et j'aime bien ça. Ça me permet d'ajouter beaucoup de contenu. Vous avez vu.
Oui, c'est ça. Donc en fait, on retrouve à la fois le spectacle, mais aussi des vidéos exclusives que vous réservez donc à la plateforme qui s'appelle Vérino On Demand, hein, DEMAND.
Exactement.
Ouais. Et puis on retrouve aussi des vidéos YouTube que vous postez régulièrement, hein, que vous mettez sur la plateforme, si je me trompe pas, ou j'ai pas bien.
Alors non, je les mets pas sur cette plateforme.
Ah non, parce que c'est oui, pardon, oui.
Ouais. Ouais, je traite chaque forme de vidéo en fonction du média et pour le coup j'ai sur VOD j'ai vraiment créé un nouveau une nouvelle
déclinaison, hein, c'est ça. Ouais.
Bah c'est ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que je trouve que sur autant en télé ou dans une salle de spectacle, on a tendance à regarder des spectacles d'une heure et demie. Autant j'ai la sensation, moi en tout cas, que je regarde plus une heure et demie de spectacle d'affilée. Donc j'ai adapté 4 spectacles au lieu d'en faire un énorme. J'en ai fait 4 de 25 minutes qui effectivement terminent par une vidéo fictionnée avec du sketch dedans. C'est un peu impossible à expliquer, mais
il faut aller voir en fait. Hein.
Ouais. Bah, je crois que c'est la meilleure solution.
Ah, c'est ça. Hein.
Une sorte d'hybride entre le stand-up et le cinéma. Et puis ça, c'était possible évidemment que grâce à la liberté que je m'offre en étant indépendant. Quoi.
Voilà, vous avez trouvé une nouvelle façon de décliner VOD. Ce n'est pas forcément vidéo à la demande, mais c'est aussi Vérino on demand. Et c'est à retrouver voilà, sur les internets, comme on dit quand on est un peu vieux comme moi.
Vieille comme VOD.Vérino.
Voilà. Merci infiniment. Moi, Vérino, d'avoir été avec nous. On vous retrouve au grand point virgule dès le mois d'août. J'espère que vous arrêtez un peu parfois parce que vous n'arrêtez pas sur scène. Hein.
Je vais faire du vélo avec mon fils immédiatement.
Et bah, allez-y, profitez. Dans un instant, on continue de parcourir la liste de nos envies. Allez voir Vérino sur scène, ça mérite vraiment le détour. Et puis, on a encore des coups de cœur à vous faire partager. A tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été sur Europe 1.
9h, 11h.
Eva Rock.
2 heures de direct tous les matins, de 9h à 11h avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. C'est ça le club de l'été et bien plus encore, hein, notamment grâce à nos invités. Et aujourd'hui, c'est la chanteuse Imani qui nous accompagne. Est-ce que tout va bien, Imani ?
Tout va très bien.
Est-ce que vous regardez la télé ?
Pas beaucoup.
Pas beaucoup. En revanche, vous êtes branchée Netflix. On vient de parler du documentaire sur les règles de notre liberté. Et votre dernier coup de cœur aussi, on en a déjà parlé sur cette antenne, c'est elle. Documentaire Homecoming de Beyoncé.
Ah non, il y a une erreur.
Ah, c'était pas ça, votre coup de cœur. Je me suis trompée, j'ai trouvé Beyoncé, ça
live.
Vous... Il était bien, le live.
Vu. Mais non, mais c'est, elle s'est trompée. J'aurais dû faire une précision. Il y a Homecoming, mais c'est sur la plateforme Amazon. C'est la série avec Julia Roberts.
Trop de plateformes, tue la plateforme. Ouais. Là, ben alors vous allez nous raconter, c'est quoi le pitch de Homecoming avec Julia Roberts ?
C'est une mini-série, je crois qu'il doit y avoir 8 épisodes. Et c'est une boîte qui a été construite pour recevoir les soldats et les soigner de leur PTSD, leur post-traumatic syndrome, pour pouvoir les soigner. Et en fait, je ne vais pas vous raconter l'intrigue parce qu'au fur et à mesure, on comprend en fait que ce n'est pas tout à fait ça.
C'est un peu plus compliqué que ça.
C'est très quatrième dimension dans l'ambiance, dans l'angoisse. Et en fait, il passe du plan 16/9 au plan carré un peu, dès qu'on change de moment. Parce qu'en fait, beaucoup des personnages ont perdu la mémoire. Donc, présent, passé. C'est hyper bien filmé, c'est hyper beau. Julia Roberts, je ne suis pas une grande fan, mais là, elle joue terrible. Elle joue super bien. À chaque épisode, on dit « Ah non, j'arrête. » C'est très angoissant.
Et puis on continue. C'est le principe des plateformes. En même temps, ils ont trouvé le truc pour vous faire
c'est ça. C'est moins de 40 minutes, un truc comme
parfait,
ça. Voilà, c'est
parfait, le format idéal.
Mais Homecoming, pour ne pas vous laisser tomber complètement, de Beyoncé, j'ai trouvé ça bien.
Mais oui, mais parce qu'en fait, je pense que c'était en l'occurrence le documentaire sur Beyoncé, parce que c'est encore une femme forte, une femme avec des revendications, avec un engagement. Et je trouve que ça vous allait tellement bien. Je me suis dit, si, c'est ça, en fait.
On a de la chance, vous l'avez vu quand même.
Et ouais, vous l'aviez vu. Bon, c'est pas grave, hein, vous savez, si vous ne l'avez pas vu, et au moins, ça fait des contenus à regarder pour après. C'est marrant parce que vous parliez justement de cette mini-série avec Julia Roberts et avec vos mains. Vous étiez en train de mimer le plan 16/9 qui se raccourcit. On a un petit jeu qu'on aime bien faire dans le club de l'été, c'est jouer avec nos sens, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait des sens dominants et qu'on en oublie parfois les autres. Imaginez que vous êtes juste à quelques secondes de rentrer sur scène, notamment au Casino de Paris, pour votre captation de concert. Quel est le dernier son que vous entendez, la dernière odeur que vous sentez et la dernière image que vous voyez avant de rentrer sur scène ?
Oh là là, c'est dur. La dernière image, c'est certainement le dernier musicien, parce que moi je monte en dernier en fait.
Ouais.
Donc c'est le dernier musicien qui monte sur scène. Le dernier son, normalement, ça devrait être ce que j'entends dans mon casque, parce que j'ai une playlist que je mets juste avant.
Vous écoutez quoi en playlist avant votre concert ?
Il y a plein de choses. Il doit y avoir James Brown, il y a du Nina Simone, il y a évidemment du Bob Dylan. Donc ça dépend à quel moment on est. Et le troisième sens, c'était quoi ?
Et quelle est l'odeur que vous sentez ? Alors après, je sais que ça peut changer d'une salle à l'autre, évidemment.
Mais... selon que vous êtes en plein air, ou selon que vous êtes... Ça, c'est difficile comme question, l'odeur. Je ne sais pas.
Vous préférez jouer en plein air ou en intérieur ?
Ça dépend. Ça dépend. En intérieur, il y a le son, il y a les conditions techniques et c'est confortable. Mais en plein air, des fois, vous chantez devant 30 000 personnes. C'est quand même un autre kiff. Et si toutes les conditions sont réunies en plein air, c'est-à-dire il fait nuit, donc vous avez votre kit lumière, etc., et qu'il y a le monde, et qu'il y a l'ambiance, et qu'il y a la bonne température, c'est parfait, quoi.
C'est magique.
Vous avez un souvenir de concert particulier ?
Oui, j'en ai plein.
Ouais.
J'ai plein de souvenirs de concerts insolites, drôles.
Insolites, vous me dites le mot insolite. Moi, j'ai envie de savoir, le concert insolite, c'était quoi ?
Mes tournées, j'ai beaucoup de dates, donc souvent je suis dans un tunnel, donc je ne me rends pas vraiment compte de ce qui se passe.
400 concerts, c'est ça déjà ?
On en a fait 600 même total avec les deux tournées. Et une fois, la première fois que je suis allé en Russie, je suis allé en voix guitare. Le projet marchait bien. sur le premier album, mais je me rendais pas compte à quel point ça marchait bien en fait, parce que la Russie c'est loin, je vois pas le rapport avec moi, enfin voilà. Et donc j'arrive et c'est une espèce de concert radio pour une grosse radio là-bas, et je suis la tête d'affiche et je suis en voix guitare, je préfère le préciser, et c'est devant 350 000 personnes.
Mais non,
350 000. Et nous, on est arrivé avec mon guitariste comme ça.
Mais comment on peut se retrouver devant 350 000 personnes? Ouais. Mais c'était dans quelle ville?
C'était à Moscou.
À Moscou?
Ah oui, mais c'est des villes avec des nombres immenses. On ne se rend même pas compte, c'était la radio numéro 1. Et puis moi, mon titre, apparemment, il marchait bien là-bas. Donc j'étais la tête d'affiche, j'étais l'artiste international. Mais juste avant, je veux dire, c'était que des artistes qui étaient invités. C'était des plateaux radio où il y avait des pom-pom girls, des feux d'artifice. Ils étaient 40 sur la scène. La scène était grande comme un stade de foot. Et moi, je venais pour une pauvre promo radio, en fait. Comme si je venais là ce matin avec ma guitare sur Europe 1 un matin. Et en fait, c'était 350 000 personnes. Et juste avant, il y avait le David Guetta suédois qui était passé. Et nous, on arrive avec notre guitare, on se regarde. Et mon guitariste, qui est quand même hyper solide d'habitude, et on regarde, il fait « Bon,
il va falloir y aller. » Et je suis sûre que ça s'est extrêmement bien passé.
Ça s'est super bien passé, mais honnêtement, j'en ai pas large. Et quand on voit la photo, je suis toute petite sur cette scène. Avec mon pauvre guitariste que je vois à 30 mètres derrière moi.
Vous, toute petite, alors que vous mesurez combien, Imani?
1m78.
Voilà.
Mais la scène était grande comme un stade de foot.
C'était immense.
C'était fait pour recevoir des groupes, des machins, des trucs. Et nous, on a pris ça n'importe comment, quoi. On est arrivé en voix guitare.
Mais voilà, vous êtes bien plus confortable dans notre studio, ici, tranquillement, dans notre club.
Et il y a 350 000 personnes qui nous écoutent.
Ouais, au moins.
C'est magique. Imani, dans un instant, il sera encore question de femmes, et c'est tant mieux. Et Olivier Pouls en est le premier avis. Elsa Lévy va débarquer dans le studio avec une revue de presse très féminine. Mais avant, je propose d'écouter The Cardigans, qui chante Loveful sur Europe 1.
Le débat qui a précédé le vote de la loi.
The Cardigans, groupe de rock suédois, et ce titre de 1996, à suivre dans le club de l'été, la chronique déjantée d'Elsa Lévy sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend.
Avec le club de l'été sur Europe 1.
Il est 9h53 sur Europe 1 et jusqu'à 11h, c'est votre club de l'été avec notre invitée, la chanteuse Imani. Imani, je vous présente Elsa. Elsa, elle adore fouiller la presse féminine afin de dénicher les articles les plus, je sais pas trop quoi, les plus quoi
tordus.
D'ailleurs, les plus tordus.
On va dire insolites.
Et alors, vous avez repéré quoi comme article aujourd'hui, Elsa ?
En fait, Imani, j'ai lu une interview que vous avez accordée à Cosmopolitan et à la question « Quel serait le premier conseil que tu donnerais à une future maman ?» Alors, c'est Cosmo qui tutoie, hein, c'est pas moi.
Ouais.
Vous avez répondu de s'écouter. Un bébé, c'est 9 mois pour faire et au moins 9 mois pour défaire. Du coup, je me demande, vu que j'ai pas encore d'enfant, c'est sympa sinon d'être maman ?
Oui, c'est sympa, c'est des challenges. Hein. Mais non, mais honnêtement, c'est génial.
C'est moi, génial. Je me pose la question parce que avec tout ce que je lis, je m'interroge un peu. Par exemple, dans Biba, je lisais l'article d'une chroniqueuse qui, en parlant de son fils, raconte « Mon enfant qui m'a valu des mois de nausées, des kilomètres de vergétures, des séances de rééducation du périnée, 90% de mes soucis, donc de mes rides et de mes cheveux blancs. » Puis elle ajoute, quand je pense que certaines en fabriquent plusieurs de ces petits ingrats, ça donne envie quoi. En plus, son mari n'a pas l'air d'un grand soutien puisque lorsqu'elle lui a appris qu'elle était atteinte de presbytie, il lui aurait répondu déjà que tu étais casse-couille, te voilà presbyte.
Ah, c'est sympa.
Morale de l'histoire, faut bien choisir son mec, le fils risque de lui ressembler. Bref, au sujet de son fils, cette maman conclut en disant « Si je m'étais contentée de prendre un chien, j'aurais eu des câlins et quelques aboiements à l'heure de la promenade. »
Mais c'est horrible. Mais comment on peut
Je pense qu'il y a un peu de second degré, mais c'est tellement écrit d'une manière violente. Alors c'est vrai qu'un chien, ça peut être sympa. Hein. Je lisais dans Cosmopolitan d'ailleurs que dans l'article 10 infos pour se coucher moins bête, pas de beaucoup, mais quand même, c'est bien qu'il le précise. Bref, des chercheurs suisses ont fait une étude dans laquelle ils comparent le pelage des chiens et la barbe des hommes. Il semblerait que les labradors sont beaucoup moins dégoûtants que les hipsters. En effet, les barbes transporteraient plus de bactéries, dont certaines à risque pathologique. Alors, je précise que ça ne vaut que pour les labradors, hein, bien sûr, pour toutes les races de chiens qui rasent le sol, chihuahua, pincher, enfin tous ces petits chiens sans articulation au niveau des genoux. C'est pas valable, évidemment. Bref, pour en revenir aux enfants, le dossier « Devenir mère » dans Féminin Psycho résume de façon très cache que devenir mère, c'est faire le deuil de sa vie d'avant, de son
c'est
corps d'avant,
faux.
De son identité d'avant.
C'est ce que vous disiez, Imani. Hein. Il faut vraiment le faire, ce livre, avec les phrases d'avant et les phrases d'après, quoi.
La vie d'avant. Après Noël, on a une cellule de soutien psychologique avec l'article « Marre d'être un parent performant » où là, on conseille carrément d'aller prendre l'apéro avec ses amis plutôt que de construire une tour Capla. Alors, ce qu'a l'air d'avoir compris
faire les
la
deux,
comédienne...
En fait, ouais, il faut peut-être faire les deux, en fait. Et la tour Capla et...
Vous pouvez faire la tour.
Elle va pas tenir. Vous pouvez faire la tour Capla avant l'apéro.
En tout cas, c'est ce qu'a l'air d'avoir...
Après, c'est plus sympa.
Pardon, oui.
Pardon.
Je finis ma chronique, je vous laisse.
Allez-y, Elsa.
En tout cas, c'est ce qu'a l'air d'avoir compris la comédienne Julia Piaton qui donne une interview dans ce même magazine et dit « Je couche mon fils, on retrouve des copains et on file à Marseille. Il y a plein de bars et de rooftops super, l'ambiance est géniale, j'y bois des Ricard avec du citron et du sirop d'orgeat. » D'ailleurs, petit rappel, grâce à Biba, on a droit à une prime de naissance d'environ 200 euros. Il faut juste penser à la demander. Je me dis que ça peut toujours aider à payer quelques tournées.
Mais non.
Enfin, dans le magazine Parents, qui en réalité devrait s'appeler Maman, à moins qu'il y ait des mecs qui lisent l'horoscope Maman-bébé de l'été, il y a un article qui s'appelle « Comment les occuper dehors ?». Alors, on nous suggère plusieurs activités, dont un cerf-volant de chez Nature et Découverte. Et on nous dit, à la première brise, on l'encourage à prendre son envol. Alors là, franchement, je ne sais plus si on parle du cerf-volant ou de l'enfant.
Oui.
Bref, je ne sais pas comment conclure cette affaire, mais si vous avez parfois envie d'offrir carrément une montgolfière à votre progéniture, gardez en tête ce que Freud conseillait aux parents. Faites ce que vous voulez, de toute façon, ce sera mal.
Eh oui, merci beaucoup Elsa Lévy. C'est pas faux, hein ?
Ouais. C'est pas faux, ouais, c'est pas faux.
Et vous avez combien de frères et sœurs, Imani ?
J'ai 6 frères et sœurs.
6 frères et sœurs. Et votre maman, elle a géré comment toute cette petite fratrie ?
La pauvre, je ne sais pas. elle faisait ce qu'elle pouvait. En plus, mon père était militaire, donc il n'était pas souvent là. Donc, elle faisait comme elle pouvait.
Avec l'aide des frères et sœurs les plus âgés.
Ouais, après, c'est ça, ce qui se passe, c'est qu'on construit une espèce de petite armée. Et puis, les vieux deviennent les parents. Et moi, j'ai un petit frère, mon dernier frère, il a 16 ans d'écart avec moi. Et il le dit tout le temps, il a eu 6 parents.
Il a eu 6 parents. Et il le regrette.
L'enfer. Le pauvre.
Et Imani, vous avez vécu à Martigues, hein, quand votre père était militaire de métier. Hein,
à Istres, plus précisément.
À Istres, exactement. Ouais, ouais. Il était affecté à Istres. Quelle est la première odeur qui vous vient quand vous pensez à Martigues ?
En fait, Martigues, j'y suis née, mais j'ai grandi à Istres. Et la première odeur, je dirais que c'est celle du laurier.
Vous voyez, ça marche cette fois-ci. Ouais. Comme quoi, on sait développer nos sens. Eh bien, je vous propose d'y aller dans cette région du sud de la France. Téléportation enclenchée dans quelques minutes sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Et oui, c'est la deuxième heure de ce club de l'été d'Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager des idées de sortie, notamment dans les festivals du moment, mais aussi des idées de balades et de recettes pour faire un peu les malins auprès des copains. N'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invité Imani. D'ailleurs, Lise, on a des messages.
Il y a Sylvie qui nous écrit « Les mots dits par Imani sur Nina Simone lui collent à la peau. Une voix à part, engagée, libre, humaine, signature vocale à part. Écoutez, un CD d'Imani est une douceur. La voir sur scène, un bonheur. Et elle propose que vous veniez à Toulouse, mais en concert à la Halle au Grain. Celle à l'acoustique parfaite pour vous, quitte à faire deux soirées, précise-t-elle.
Bah voilà.
Si vous avez besoin d'un impresario.
Et deux dates de plus dans la prochaine tournée. Lise Pressac, direction le sud ce matin, oui, grâce à Imani. Et on va visiter quel site en particulier?
On va aller dans les Calanques, du côté de la Côte Bleue, entre Martigues et Saussay-les-Pins.
Ouais. Et Olivier, de quel mets allons-nous parler?
Je vous emmène en pique-nique en fin d'émission avec une recette un peu originale pour agrémenter ce beau moment. Et puis sinon, je vais vous proposer de larguer les amarres dans quelques minutes. On va partir à la pêche.
On va voir ça.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Imani, je vous propose un voyage dans le temps grâce à la musique encore et grâce un peu à votre vie aussi. Savez-vous par exemple quelle chanson tournait en boucle en 1979, l'année de votre naissance? Vous avez une idée? En France, hein?
Je sais pas, peut-être un truc de Joe Dassin, non?
Non. C'était ça.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces.
C'est moi, vous disiez ça, je me suis demandé quel artiste, enfin quel est le répertoire français que vous pourriez reprendre.
Francis Cabrel sans problème,
ouais.
Souchon.
Ouais.
C'est marrant que vous me demandiez ça parce que je suis sur un autre projet, que je vous dirai rien de ce projet, mais
bon, un album de reprise d'un vieux chanteur français.
Du coup, je me replonge dans les artistes français que j'aime bien, les chansons, c'est intéressant. Ouais, donc ouais, Souchon, j'aime bien. Qui est d'autre, j'aime bien.
Laurent, vous le dit avec.
Pas forcément.
Ouais.
J'aime bien, mais pas autant. Ouais. Je préfère Souchon.
Bachung.
Ouais, je préfère Souchon. Alors, j'aime pas du tout Bachung.
Ah oui.
J'ai jamais. Mon mari, il adore Bachung. Il essaie de me faire aimer Bachung. Je ne comprends pas Bachung.
Mais je pense que c'est un peu ça. C'est
soit on adore, ouais, soit vraiment qu'on n'adore pas.
Ouais.
Et sur la tournée, vraiment, on a eu des vrais
disputes
avec les... avec les musiciens, parce qu'il y a les pros et il y a les contres. Et c'est une poésie qui ne me parle pas forcément. Je respecte énormément l'artiste, mais ce n'est pas vraiment...
Oui, Mani, je vous admirais beaucoup, beaucoup, jusqu'à maintenant.
Ouais,
puis
je suis désolé.
Il y a un truc qui s'est... Moi, j'adore.
Non, mais moi, mais attendez, mon mari aussi, tous les jours, il se questionne s'il va rester marié avec moi.
Pour une chanson de Bachung. En 2008, vous arrêtez votre carrière de mannequin et sur les ondes, c'est une chanson qui vous va très bien, qui passe. Écoutez. Vous vous souvenez de cette chanson? William Bavé?
Ah non.
C'est 2008. Hein.
Ah oui.
Ça ne cessait de tourner. Ah, mais vous étiez à New York en même temps.
Hein,
donc, vous rentrez en 2008. Donc peut-être que vous êtes peut-être passé à côté.
Je vois qui c'est, William Bavé, sans problème.
Et enfin, en 2013, alors que vous signez la BO du film Sous les jupes des filles d'Audrey Dana, dont nous parlions tout à l'heure, il y a une chanson hyper entraînante qui s'impose dans les hit parades. J'adore cette chanson. Blur Lines, Robin Thicke. Est-ce que vous avez une Madeleine de Proust en termes de chanson? Une chanson qui fait revenir des souvenirs d'un coup, dès que vous l'entendez. Ou que vous pouvez écouter des milliers de fois sans jamais vous en lasser.
Bon, ça y en a peut-être plusieurs. Alors, il faut que je réfléchisse. Elles sont dures, vos questions, toi, le matin. Comme ça. Est-ce que j'ai précisé que j'avais un bébé de 5 mois à la maison?
Oui.
Qu'est-ce que ça pourrait être?
Vous lui chantez une chanson à votre bébé de 5 mois?
Oh oui, j'en chante plein.
Laquelle?
Toutes celles qui me passent par là. Je chante beaucoup des miennes, je ne vais pas mentir.
C'est premier public en même temps.
C'est mon premier public et elle a l'air de s'en foutre, honnêtement. mais quand même. Des fois, c'est des chansons qu'on invente avec mon fils. Je suis en train de lui apprendre à faire des rimes. Là, il commence à comprendre, donc c'est drôle.
Il a quel âge? 3 ans, votre fils?
Ah, ouais. Il commence à cet âge-là, c'est vraiment tellement intelligent.
Et oui.
Et donc, je ne sais pas, je lui chante... Je chante surtout, c'est vrai, des trucs à moi, égoïstement. Je sais pas, peut-être un truc de Michael Jackson.
Et quand vous étiez enfant, vous aviez une chanson ? Une comptine, par exemple, que vous vous répétiez en boucle ? Une souris verte, moi, c'était, par exemple.
Bon,
bah, je sais pas, j'ai chanté 150 000 fois une souris verte.
Mon fils aussi, là, ça,
souris verte. Alors, ça
intergénérationnel. Traversé les époques, donc.
Mais j'ai 3 ans en même temps, Imani. C'est normal.
Cœur, oui, oui.
Vous voyez ?
Oui, puis maintenant, c'est sur Internet encore. À l'époque, vous chantiez tout seul. Mais là, maintenant, ils nous demandent de le mettre sur Internet, là, sur YouTube, en boucle. À la fin, je ne peux plus.
On va quitter Paris pour rejoindre Martigues et cette lumière méditerranéenne. Grâce à vous, Imani. À tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps. On se détend.
Avec le club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes toujours en direct, il est 10h13 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invitée, la chanteuse Imani. Imani, est-ce que vous avez beaucoup déménagé au cours de votre vie ? Avec un papa militaire en plus, il y a eu beaucoup d'affectations ou...
Oui, on a pas mal déménagé, mais en fait pas tant que ça. Mon père, il a beaucoup bougé, il n'a pas voulu qu'on déménage trop, il ne voulait pas trop nous... Mais c'est après, moi, quand j'ai commencé à partir de chez moi, j'ai déménagé au moins une fois par an. Ouais, pendant, je sais pas, 10 ans.
Et est-ce qu'il y a un lieu où vous vous sentez bien, où vous vous sentez chez vous ?
Aujourd'hui, vous voulez dire ? Chez moi. non, mais sérieusement, parce qu'en plus, on sort de 3 ans de travaux dans cette maison, et là, vraiment, elle commence à être vraiment bien. Et en fait, j'ai jamais eu de problème de pas me sentir chez moi.
Ouais.
À partir du moment où j'avais décidé de vivre quelque part, je décidais que c'était chez moi et j'y étais bien. Tant que j'ai mes affaires, ma valise, et que j'ai décidé que ici c'est chez moi, je me sens bien.
Vous étiez chez vous à New York, vous étiez chez vous en tournée, etc. Avant de rejoindre Martigues, je vous propose de bénéficier de quelques bons plans sortis grâce à Lispressa qui en débute ce journal de la culture par Mick Jagger qui revient au cinéma.
Oui, le légendaire chanteur des Rolling Stones qui fêtera ses 76 ans ce vendredi. Revient au cinéma dans un thriller présenté à la Mostra de Venise en septembre, The Burnt Orange Heresy, du réalisateur italien Giuseppe Capotondi, qui se déroule dans le monde de l'art. Justement, Mick Jagger y incarnera un riche collectionneur d'art, obsédé par un peintre solitaire incarné par Donald Sutherland. Cela faisait presque 20 ans qu'on n'avait pas vu Mick Jagger sur grand écran. Sa dernière apparition remonte à 2001, c'était dans The Man from Elysian Fields de George Hickenlooper. Le chanteur compte quand même une dizaine de longs métrages à son actif en tant qu'acteur. La première mondiale en tout cas de ce thriller aura lieu le 7 septembre en clôture de la 16e Mostra de Venise.
Je crois que je ne l'ai jamais vu sur grand écran.
Moi non plus, je ne pense pas.
Imani, vous pourriez tourner au cinéma ?
Si on m'invite. Non, oui, ça m'intéresse. Ouais, ça m'intéresse.
Bah, c'est lancé.
Allez, voilà, invitation lancée. Et si ça se fait, c'est grâce au club de l'été, donc on veut des royalties, 10%. Changement de décor, Lise, vous nous emmenez maintenant au musée Bourdelle à Paris.
Pour aller voir l'exposition Backside, dos à la mode, c'est une exposition conçue par le Palais Galliera, actuellement fermée pour travaux, et donc accueillie par le musée Bourdelle. Une exposition consacrée aux vêtements vus de dos, un dos qu'on orne avec des ailes, des traînes ou bien qu'on dénude. On pense à la sublime robe portée par Mireille Darc dans le film Le Grand Blanc avec une chaussure noire, avec cet échancré incroyable.
Et la musique de Vladimir
Kosma. Elle est présentée dans l'exposition aux côtés d'une centaine de pièces qui trouvent leur place au milieu des sculptures d'Antoine Bourdelle. Vous suivrez un parcours thématique du XVIIIe siècle à nos jours avec des pièces issues des collections de Galliera. Il y a une robe ailée de Thierry Mugler, corset en dentelle de Jean-Paul Gaultier ou encore la veste Zara portée par Melania Trump sur laquelle était écrit I really don't care do you, j'en ai vraiment rien à faire. Et vous, rappelez-vous, elle visitait ce jour-là un centre d'hébergement pour migrants dans le Texas. Car le dos, oui, est aussi porteur de messages. C'est le message de l'exposition Backside, dos à la mode, qui est à voir au musée Bourdelle à Paris jusqu'au 17 novembre. Musée qui par ailleurs possède un magnifique jardin, je l'ajoute en ces temps de canicule, c'est aussi un endroit très très chouette à Paris.
Vous vous intéressez toujours à la mode ?
Oui, je m'intéresse dans ce sens-là. J'ai vu l'affiche dans le métro, elle est hyper belle.
Oui, elle est très magnifique.
Le dos de la femme, magnifique, et j'avais envie de la voir.
Sur le côté patrimonial, en fait, c'est ça, le côté historique de la mode qui vous intéresse ?
Le côté de ce que ça raconte, le côté technique, le côté artistique, en fait. Après, être à la mode, ça ne m'intéresse pas plus que ça.
Enfin, direction Bagnoles sur 16 pour écouter du reggae.
À partir de jeudi, cette petite ville du Gard prend des airs de Jamaïque.
Oui. Deux secondes. Oui. Lispressa qui est fan de reggae, Imani.
Oui,
voilà, c'est vraiment. Il y a vous et le reggae.
Elle en casse dans chacune de ses chroniques.
Non, vous avez remarqué que j'ai attendu 2 semaines et demie quand
même. C'est vrai.
À partir de jeudi, donc, cette petite ville de Bagnoles sur 16 prend des airs de Jamaïque. Avec cette année plusieurs anniversaires à célébrer. D'abord celui des 40 ans du film Rockers, qui est devenu un classique pour tous les amateurs du genre. À l'origine, c'était un documentaire sur la culture reggae qui s'est transformé en long métrage avec à l'écran de nombreux artistes de légende. Et bien 40 ans après, certains d'entre eux seront là pour interpréter les classiques contenus dans cette bande originale. No, it won't be too long now. No, it won't Donc c'est Kid Usai qu'on est en train d'écouter, qui fait partie notamment de la tournée Ina Diard. Et un autre anniversaire qui sera célébré aussi à Bagnols-sur-Cèze, les 45 ans de carrière du groupe Third World. Ajoutez à cela une très belle programmation avec Morgan Heritage, il y aura Horace Andy et Tiken Jah Fakoly notamment. Le Bagnols Reggae Festival, c'est 25, 26 et 27 juillet, c'est à Bagnols sur 16, c'est dans le Gard, pas très loin d'Avignon.
Est-ce qu'il y a du reggae dans votre playlist, Imani?
C'est marrant parce que j'étais en train de penser, ça y est, j'ai retrouvé ma chanson Proust.
Alors c'est quoi?
Eh bien c'est Zimbabwe. Vous savez, Bob Marley.
Oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous la connaissez par cœur,
oui.
Vous aussi.
Oui, je ne vais pas vous la chanter parce que je chante très mal.
C'est dommage.
Non, c'est pas dommage.
En fait, en vous écoutant, ça m'est revenu. Mon père, il adorait cette chanson. Il l'écoutait. Et je le revois en train de le mettre le vinyle sur sa platine. Et il le sifflotait, il sifflait. Et je ne sais pas pourquoi je le revois. Et ça me rappelle un truc de mon enfance. Quoi.
Ben voilà, ouais. On a réussi à trouver. Ben voilà. Merci beaucoup, Lise Pressac. Avant de partir en balade dans les Calanques, parenthèse musicale avec Alec Benjamin et son titre Let Me Down Slowly sur Europe 1. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. For an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down. Alain Benjamin sur Europe 1. Dans un instant, nous partons pour les rives de la Méditerranée.
Zimbabwe. 9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock. We gon' fight.
Zimbabwe, c'est ça le morceau qui de votre enfance, Imani?
Ouais.
Il est 10h23, vous êtes bien sur Europe 1. On écoute du reggae, mais c'est très bien. Et c'est le club de l'été, vous êtes les invités de ce club. Vous savez, c'est ouvert tous les matins, de 9h à 11h. C'est un lieu où il fait bon vivre, hein, la preuve. De la culture, des découvertes et quelques gourmandises, le tout enrobé par la bienveillance d'une invitée VIP, en l'occurrence Imani. Et grâce à vous, Imani, on va partir pour le sud de la France. Lise, je crois que vous nous emmenez dans un lieu absolument sublimissime.
Je vous emmène du côté de la Côte Bleue, c'est une côte que vous connaissez pas forcément, Eva, vous êtes plus de l'autre côté, mais en tout cas je vous emmène dans ces calanques autour de Martigues. Enfin c'est pas moi qui va vous y emmener, mais Michel Manini. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Alors racontez-nous, où est-ce qu'on commence cette visite?
Eh bien écoutez, on la commence dès la sortie de l'Estac. Voilà.
Ah. Qu'est-ce qu'on va voir?
Qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien écoutez, je vais faire un petit résumé du coup. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la côte bleue. La côte bleue qui est une portion de côte méditerranéenne située à l'ouest de Marseille. Et dès qu'on finit le 111e quartier de Marseille, l'Estac, on attaque la côte bleue avec le premier petit village qui s'appelle Le Ronde. Et ensuite, on continue entre Calanque, Petit Cabanon, Senteur de Romarin. Voilà.
On y est, Michel. Mais quand vous dites on continue, on est à pied ou on n'est pas à pied pour continuer?
Alors, deux façons de pouvoir s'y rendre. La première, à pied, effectivement, au départ de l'Estac, et ensuite par le petit train de la Côte Bleue, construit au 19e siècle, et qui, lui, a l'avantage de pouvoir traverser toutes les petites calandres en surplomb de la côte, chose que ne peut pas permettre la voiture, parce que la voiture, la route, elle est dans les terres.
Et oui.
Donc, on ne voit pas la côte. C'est ça, le problème.
Et à pied, il faut quand même être un peu entraîné, non? Pour faire toutes les calandres.
Alors, à pied, un petit peu entraîné. Alors, il y a des parties qui sont beaucoup plus simples que d'autres, puisqu'on a quand même 28 km de littoral. La ligne de crête qui avoisine les 130 mètres d'altitude.
Oui, quand même. Oui.
Depuis 2016, on a fait les communes de Carry, d'Ansuès et de Martigues ont réalisé un sentier de 62 km qui permet de faire l'Estac jusqu'à Martigues avec des petites parallèles très faciles aussi. Il y en a pour tous les goûts, en fait.
Olivier Pouls.
Et alors, j'imagine qu'on peut prendre son maillot de bain et plouf.
Surtout, on prend son maillot de bain. On n'oublie pas.
Vous êtes de Saucé-les-Pins, Michel?
Exactement. Moi, je suis de Saucé-les-Pins. Si vous voulez, il y a deux stations balnéaires qui ont un petit peu changé et qui ont explosé. C'est Saucé et Carré-le-Rouet. Tous les autres petits villages que l'on traverse quand on prend le train ou que l'on y va à pied n'ont pas changé leur façon de vivre, n'ont pas changé leur calanque, n'ont pas changé leur petit port. Ce qui fait que quand on fait cette petite promenade, on se replonge dans les années 50, dans les années 40, avec le cabanon, la cigale, la bouillabaisse,
Vous avez dit les mots-clés pour réveiller Olivier Pouls, là.
Ouais. Non, et puis votre accent, ça fait du bien, Michel. Merci beaucoup. Hein. C'est vraiment, on chante avec vous quand on parle.
Là, on ne se force pas.
Oui, exactement. Et même en période de canicule, on peut aller se balader dans les calanques, où il faut faire un peu attention.
Absolument.
On peut y aller.
Alors, il faut faire attention.
Oui.
Voilà, on peut aller se rafraîchir. Il y a plein de petites calanques qui sont autorisées d'accès malgré le vent, parce que quand il y a du vent, on peut pas accéder au massif. Mais par exemple, vous pouvez vous aider sur Niolon, vous pouvez vous aider à la calanque de l'Hervine, qui est du côté du Rove. Enfin, on peut accéder, vous pouvez vous baigner à des magnifiques plages de sable pour ceux qui veulent faire des petits châteaux de sable.
C'est pour Olivier.
Voilà, au Verdon. Ou aller faire, ou aller voir et rencontrer les amis de Camping Paradis qui tournent pas loin de Martigues.
Mais c'est bien.
Et puis évidemment, on peut aller pique-niquer aussi. Et
vous allez nous donner des recettes.
Ouais,
exactement. Merci beaucoup,
Michel
Manini. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1 et merci pour cette carte postale. On a évidemment envie de vous rejoindre. C'est comme tous les matins avec tous
nos
interlocuteurs.
C'est très frustrant, en fait.
C'est très frustrant.
Je vais rouvrir les yeux. Ça y est, on
est dans le studio. Imani, vous connaissez les calanques à l'est de Marseille?
Je les connais parce que j'en ai entendu beaucoup parler, mais c'est vrai que je n'y suis jamais allée.
En famille, vous n'étiez pas à la sortie familiale,
Non, puis vu comment elle l'a décrit, j'imagine que...
Avec tous les enfants et tout, c'était un peu compliqué, à mon avis.
Non, mais non. Et en fait, on était petits. Moi, j'ai grandi, comme je vous disais, à Istres. Et puis, beaucoup de ma famille a été à Marseille. Je suis d'origine comorienne, donc c'est la deuxième capitale des Comores. et c'est vrai que c'est comme les jeunes qui vivent aux portes de Paris et qui ne viennent jamais sur Paris. C'est la même chose.
Exactement.
Je ne connais pas, mais ça donne envie.
C'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait des enfants à Marseille qui n'avaient pas vu la mer, ou en tout cas qui ne s'étaient jamais baignés dans
ça
la mer.
Ça ne m'étonne pas du tout.
Qu'ils habitent dans les quartiers nord de Marseille. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Toutes les infos, évidemment, sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Lise, vous nous postez tout ça sur votre compte Twitter avec le hashtag Europe 1. Olivier Pouls, on va prendre la mer dans quelques minutes. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
C'est la suite du club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls, c'est notre invité ce matin, et Imani. Imani, est-ce que vous êtes gourmande?
Très gourmande.
C'est vrai?
Ouais.
Vous faites attention à votre ligne ou pas?
Franchement, pas vraiment.
Pas vraiment?
Là, j'ai eu un bébé, alors comme j'ai dit, 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire, donc on prend son temps.
Alors, vous avez une Madeleine de Proust culinaire?
Oui, vous m'avez posé la question avant d'arriver. C'est pas simple parce que je pense que je dois en avoir plusieurs. Mais
l'avocat.
L'avocat.
L'avocat des Comores.
En fait, c'est pas n'importe lequel. Mmh. Voilà, ouais. L'avocat des Comores, il est énorme. On dirait presque un melon, quoi. Mmh. Et il y a pas longtemps, mon père m'en a amené un. Et ça faisait des années que j'en avais pas goûté. En fait, l'avocat aux Comores, pour nous, c'est vraiment un dessert. On le mange avec du sucre en poudre et un petit peu de citron. Voilà. Et en fait, ça marche pas avec tous les avocats, mais avec cet avocat-là, c'est hyper bon. Je me rappelle encore quand je suis arrivée à l'école, à la cantine, et qu'on mettait l'avocat avec des crevettes, la vinaigrette, j'ai cru que j'allais vomir. Je me suis dit,
qu'ils font fou.
Mais, et donc, ça m'a, si je le mange maintenant, ça me rappelle mon enfance et ça me rappelle particulièrement mes vacances aux Comores.
Bon, et vous aimez le poisson ?
J'adore le poisson.
Eh bien, ça tombe bien.
Ouais.
Car figurez-vous, je vais vous emmener à la pêche.
C'est comme si j'avais pris la mer.
Ah, carrément.
Attendez, je vous explique une chose. Dans mon casque, le réalisateur, Robin, me dit « Attention, j'ai une musique pour Olivier. » Et moi, je pense que ça va être une musique de mer, enfin, un truc chouette, ouais. Quoi. Et il me... Garou, quoi.
Oh, Garou.
J'aime bien Garou, mais... Et il est content de lui. Ouais. Et il y a Céline Dion. Voilà.
Bon,
on y va, on prend la mer, Olivier, embarquez-moi dans les calanques, dans la Méditerranée.
On va aller un petit peu plus au large et on va retrouver à bord de son bateau, figurez-vous, Vincent Garcia.
Mais oui, on entend
pêcheur.
L'eau.
Oui, bonjour.
Bonjour Vincent.
Comment est
bonjour
la
tout le monde.
Comment est la mer ce matin, Vincent?
Aujourd'hui, la mer est magnifique.
Et vous,
elle est magnifique.
Non, vous en êtes très sérieux, vous êtes bien sur votre bateau au moment où on se parle, Vincent?
Ah, et pour... alors, j'exagère pas, mais j'ai un poisson entre les mains qui vient juste d'être pêché par Johan.
Ah bon? Et qu'est-ce que vous avez pêché comme poisson?
Alors là, j'ai attrapé un maquereau espagnol.
Ouais.
Et donc, un joli maquereau. On vient de faire des bonites, enfin notamment une pélanide. Voilà, je suis à l'embouchure du Rhône, et il y a des chasses un petit peu partout, donc ça consiste juste à lancer des leurres sur les poissons qui sautent en surface.
D'accord. Ah oui. Donc vous faites vraiment une... Vous êtes pêcheur artisanal, on va dire. Hein. C'est de la petite pêche.
Alors, disons que ce n'est pas de la pêche artisanale, parce qu'on associe la pêche artisanale à des petits métiers qui posent des filets. Moi, c'est de la pêche sportive, avec des cannes et, disons, pour simplifier, un hameçon.
Ah oui, donc c'est vraiment physique en plus.
Oui, alors c'est physique, là ça reste des petits poissons, mais c'est vrai que, bon, Johan commence peut-être à avoir un petit peu mal au bras.
Ah voilà, oui.
Il aimerait bien avoir encore plus mal au bras, mais voilà, le principe c'est de le remonter à... avec la canne.
Et donc, voilà. vous nous l'avez dit...
Encore un poisson.
Ah ben,
en touche.
Encore une touche. C'est en quoi direct. Cette fois-ci? C'est quoi cette fois-ci?
Ah là, je ne sais pas. Là, c'est ça qui est sympa à la pêche, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Donc voilà.
Vous allez tomber sur une trottinette, voilà. Vous allez voir.
Oui, il paraît qu'il y a des trottinettes, mais là où je suis, non.
Quels sont les poissons qu'on trouve en cette saison? Parce qu'il faut préciser qu'il y a une saison aussi pour les poissons, bien sûr.
Voilà, chaque saison a ses poissons. Et là, actuellement, donc, on est en période estivale, donc c'est des poissons... donc des pélagiques, donc on peut croiser des bonites, des maquereaux. Donc là, c'est un peu au large et après, à proximité des côtes, un peu plus près, on peut trouver du loup, de la dorade. Voilà, donc après, ça dépend ce que l'on recherche.
Bon, et qu'est-ce que vous allez faire de ces poissons? Ils sont vendus ensuite à ceux qui...
Ah non, non, moi je ne vends pas le poisson. En fait, du coup, j'emmène des stagiaires à la pêche. Comme ça, je leur montre... Oh là, il a du mal, Joanne. en direct.
Si vous tombez à l'eau...
Je mettrai des photos, vous verrez. Et donc, du coup, non, moi je ne vends pas le poisson. Alors, les stagiaires qui sont avec moi sur le bateau peuvent conserver une partie du poisson. Et comme aujourd'hui, là, lorsque ça mord beaucoup, on essaie d'en relâcher, donc on pratique le no-kill.
Mmh.
Ça consiste juste à piquer le poisson, à le remonter sans le blesser. Alors, il a juste un petit piercing au bout de la... dans la bouche. Et ensuite, on le relâche.
Et
lorsque certains poissons sont blessés mortellement, et bien c'est ceux-là qu'on conserve.
D'accord.
Et c'est pour vous?
Alors là, c'est pour les stagiaires qui sont avec moi. Et moi, j'en récupère de temps en temps, parce que je mange régulièrement, évidemment, du poisson. Donc, j'en prends pas systématiquement, non. Et par contre, je ne vends pas le poisson.
Bon,
et
si Eva allume le barbecue, vous pouvez nous apporter quelque chose de sympa, quand même, pour le déjeuner?
Voilà, pour le barbecue, le maquereau, c'est impeccable.
Oui, c'est bon,
le maquereau. Ça sent un petit peu fort, tous les voisins, ils savent que l'on fait des maquereaux. Mais sinon, non, c'est très bon.
Mais oui, parce qu'il faut redécouvrir ces poissons bleus, d'abord, qui sont très bons pour la santé, puis qui sont pas très chers, en fait, quand on les achète, en l'occurrence.
Voilà. C'est ça. Et puis alors du coup, là, quand ils ont un petit goût supplémentaire quand on les a attrapés à la ligne quand même.
Et Vincent, vous êtes aussi, vous êtes aussi guide, c'est ça?
Oui, alors du coup, c'est un moniteur guide de pêche.
D'accord.
Donc voilà, j'emmène les gens. Alors moniteur, c'est pour certaines personnes qui ont pas, qui n'ont pas forcément toute la technique. Et lorsque l'on fait du guidage, on va plus sur du perfectionnement avec des choses encore plus précises, encore plus techniques sur la gestuelle, sur le matériel.
Bah merci beaucoup. On était vraiment avec vous et on vous entend hyper bien. Donc on est assez surpris. On avait l'impression que vous étiez plutôt dans une poissonnerie que sur votre bateau. Mais
ah
on vous croit.
Non,
mais écoutez, je vous crois. On attend les photos, mais on croit.
Pas du le clapotis de l'eau.
Voilà. Oui, je suis.
Merci beaucoup, Vincent Garcia. Toutes les informations vous concernant sont disponibles sur votre site www.capcouronnepêche.fr. On va également mettre toutes ces références sur le site internet et sur Twitter. Vous aimez le poisson cuisiné comment? Grillé, imani ou plutôt en sauce ou comment on le cuisine aux Comores, par exemple?
Moi, j'aime tous les poissons crus, grillés, vapeur, papillotes, tout ça. Comment on cuisine le poisson? On le grille beaucoup.
Ouais.
On le frit aussi. Beaucoup aussi. C'est une île, hein, donc on mange pas mal de poissons.
Votre maman, elle cuisine énormément?
Elle cuisine peut-être moins maintenant, mais elle a cuisiné beaucoup pour la masse.
Et ouais. La masse étant les six frères et sœurs.
C'est ça. Mais moi, je cuisine. J'aime bien cuisiner.
C'est vrai? Ouais. Votre plat de référence, celui que vous ratez jamais et avec lequel vous épatez les copains?
Oh, j'en sais rien. À vrai dire, mon truc de référence, je vais dire la vérité, c'est pas vraiment un plat, c'est un dessert, enfin un gâteau.
Ah bah c'est... Oui.
Moi, je fais super bien les cookies. C'est-à-dire que je pourrais les vendre, quoi.
Ouais. Et ben,
et on n'en a pas ce matin.
Il m'aurait prévenu un peu en avant. Je vous aurais peut-être fait hier soir.
Mais avec les deux cookies, enfants, vous avez encore le temps de faire la cuisine.
Tous les dimanches, mon fils, il veut rien d'autre.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, les cookies de maman.
Ouais.
Bon.
Mais il a bon goût, il a raison.
Il a bon goût. Bah, on attend de les goûter, Olivier. Bah, bien on ne sait pas. Hein. On attend notre petit sachet. On attend notre petit sachet.
Voilà. Vous avez absolument raison.
Olivier, on reviendra tout à l'heure sur votre vrai faux de la journée qui concerne les légumes frais. Je vous propose de partir à la découverte de trois nouvelles destinations. C'est l'Espressa qui est notre guide cette fois-ci. À tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend.
Avec le club de l'été sur Europe 1.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec les experts que la terre entière réclame, Olivier Pouls et Lise Pressac. Et la terre entière réclame aussi Imani, qui est notre invitée ce matin. Et nous en sommes très très heureux. Est-ce que vous aimez voyager encore aujourd'hui?
Oui, j'aime voyager. Ouais.
Avec Lise Pressac, on traverse la France depuis le début de cette saison. Et à chaque fois, c'est à travers une thématique. Et aujourd'hui, vous nous proposez, Lise, trois marchés pour découvrir le patrimoine local.
Oui.
Alors, tout commence au marché aux volailles de Louhans.
Oui, un grand marché traditionnel qui se tient tous les lundis. Merci, Robin. On y est. Plus de 250 exposants sont présents. La grande rue est fermée à la circulation pour l'occasion.
Alors,
c'est un marché aux volailles, mais c'est aussi un marché alimentaire. Sous les arcades, vous pourrez ainsi goûter aux corgnottes.
C'est quoi?
C'est une spécialité locale. Est-ce que vous connaissez, Olivier? Alors, c'est une viennoiserie composé d'un fond de pâte brisée recouverte de pâte à choux. Ça a l'air pas mal. Vous pourrez aussi prendre un café ou une tête de veau, autre spécialité locale, à 10h du matin, pourquoi pas.
Ah non, mais là, j'ai
c'est
aucun
pas,
problème.
Voilà, c'est pas Olivier qui me contredit.
Voilà.
Il y a aussi des produits du coin, des légumes, des fruits de saison. Et alors, coutume locale, on achète souvent au plateau, pas au kilo, surtout si vous poussez jusqu'à la promenade de la Charité à deux pas du centre. Et vous pourrez aussi découvrir donc, le marché aux volailles de Brest, classé parmi les 100 sites remarquables du goût par le Comité national des arts culinaires. Le marché de Louhans en Bourgogne a lieu tous les lundis matin.
Vous êtes déjà allé, Olivier?
Je pense que oui.
Oui, je suis déjà allé dans cette région-là.
Je vous imagine
mais
bien.
Mais vous avez raison, il faut faire les marchés en été, on a le temps. Même si on n'est pas en vacances, chacun a pas loin de chez soi un marché. Faisons les marchés, c'est tellement plus agréable et puis quand il fait beau comme ça.
C'est un lieu que vous fréquentez, Imani, les marchés?
Oui, moi j'adore le marché, ouais. On y va une fois par semaine. Le marché d'en bas de chez moi, enfin de pas très loin de chez moi, de Pantin, c'est... Ah mince, j'ai dit où j'habitais maintenant.
On
l'a pas entendu.
Mais j'adore le marché, j'ai toujours aimé le marché. Ouais.
Alors après la volaille, le poisson, Lise.
Bah, on retourne du côté de... Cette fois, on va dans le Finistère. Le Guilvinec, c'est le premier port français de pêche artisanale, côtière et petite pêche. C'est le troisième port après Boulogne-sur-Mer et Lorient, toutes pêches confondues. Alors le marché du Guilvinec vous propose des produits frais toute l'année. Il est aussi possible de visiter la criée et d'assister à la vente aux enchères des poissons et crustacés assez du jour. Alors à 16h30, il y a une visite guidée d'une demi-heure qui coûte 7,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants. Vous pouvez aussi la visiter à 5h du matin, c'est encore mieux. Alors comptez 13,40€ pour les adultes et 11,40€ pour les enfants, car la visite dure 3h avec donc la visite de la criée, mais aussi une dégustation de soupe de poisson et la visite guidée des expositions du centre de découverte et de la criée du Guilvinec. Le marché aux poissons, lui, est ouvert les dimanches et mardis. C'est rue de la Marine, près de la Poste et dans les rues adjacentes.
C'est génial de voir la criée.
Oui,
et je vous conseille vraiment le matin.
Oui.
Et puis surtout, grande chance à tous ceux qui vont à ce marché, parce qu'on se rend compte que les poissons sont beaucoup, beaucoup moins chers que, notamment à Paris, où malheureusement, le trajet alourdit l'addition. Et c'est vrai qu'il y a une différence de prix assez, assez importante.
Ouais. Voilà. Et on termine ce Tour de France des marchés spécialisés à Nice.
Vous le savez, hein, Eva, c'est contractuel. Voilà. Pas une chronique sans que je fasse allusion à cette magnifique ville.
Sinon, ils sont virés, Imani, c'est ça.
Voilà. Direction le marché aux fleurs du Cours Saleya, classé par le Conseil national des arts culinaires parmi les marchés d'exception en France. Il rassemble une trentaine d'exposants, fleuristes et horticulteurs. Sous les tentures rayées, vous trouverez des géraniums multicolores, des fuchsias d'un mauve intense et des dahlias. Une centaine d'autres fleurs aussi. Le marché est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Et c'est à la fois une bouffée de couleurs et de senteurs, n'est-ce pas, Eva?
Oui, parce qu'il y a les stands de soca juste à côté.
À côté de la, c'est à côté de la place Évaroc, je crois.
Près de la statue.
Arrêtez. Bon, et pour finir cette séquence, Lise, vous nous proposez une application qui nous permet de voyager sans se déplacer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui, un voyage au cœur des œuvres de Paris Musée avec l'application Second Canva. C'est une visite en HD et en détail accompagnée de commentaires audio. Vous pourrez ainsi découvrir les œuvres de 14 musées de la ville de Paris. Les catacombes, il y a la crypte archéologique de Notre-Dame, les maisons de Balzac et de Victor Hugo, les musées Bourdel, dont on parlait tout à l'heure, Carnavalet, Cernucci, Cognac-Jay, le musée de la vie romantique ou encore le palais Galliera et le petit palais. Parmi les 52 œuvres présentées, le soleil couchant sur la Seine à Lavacourt de Claude Monet ou encore le phare de Collioure d'André Derain. Et donc vous pouvez zoomer dans les œuvres, vous parcourir et avoir l'explication quand on ne peut pas venir à Paris ou quand on est loin.
Ah, c'est très très bien. Et comment ça s'appelle cette application?
Second Canva, C-A-N-V-A-S.
Ah, C-A-N-V-A-S. Oui. D'accord. On va évidemment mettre les références des contenus sur le site Europe 1. Puis s'il vous manque une information, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Imani, est-ce que vous avez le temps justement d'aller dans les musées, faire des concerts, prendre le temps de lire, enfin se cultiver d'une façon générale?
Ça, ça fait partie du bouquin avant, donc.
Oui, le avant-après, les enfants.
J'aimerais bien avoir plus de temps. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais parce que je suis pas dans. J'ai pas le temps ni l'énergie. Mais j'ai toujours aimé lire. Avant, je lisais un bouquin par semaine. Enfin, j'aurais aimé faire plus d'expos, mais en même temps, 600 dates de concert.
C'est compliqué, ouais.
Mais oui, lire, faire des expos, faire des voyages. Ça, c'est mon truc.
Vous avez lu Simone de Beauvoir, si je ne me trompe pas?
Oui, j'ai
c'est
lu.
Ça
ouais, j'ai lu Simone de Beauvoir. On m'en parle souvent parce que j'ai lu Mémoire d'une jeune fille érangée quand j'étais jeune et que ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'était être une femme et que ça pouvait, c'était pas obligé d'être juste une épouse, une mère et que ouais, ça moi, je trouve que, justement, les livres, c'est la meilleure façon de voyager sans bouger de la maison. C'est ce que je dis à mes neveux, mes nièces, que j'incite à lire. Parce que c'est pour moi, c'est, en tout cas, il y a beaucoup de livres comme ça qui ont changé ma perspective, ma vie. Voilà. Donc, c'est des amis fidèles qui...
Si vous deviez conseiller un livre aux auditeurs, là, il y en a un qui vous vient. Aujourd'hui. Un qui vous a marqué, qui vous a bouleversé ou qui vous a fait rire, ce qui est plutôt rare avec les livres, d'ailleurs.
Qui fasse rire. Le dernier livre que j'ai lu, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais ça s'appelle Les précieuses marchandises, un truc comme ça. Mince, j'ai oublié le nom.
On va trouver le nom. Ouais.
C'est un conte. C'est un conte pas très, très joyeux, comme souvent les contes sont, finalement. Et.
On va le trouver, Les précieuses marchandises. Oui, c'est un conte, c'est de Jean-Claude Grumbert.
Merci. Ouais. Ça s'appelle Les précieuses marchandises.
Exactement.
Ah bon?
Exactement. Votre mémoire fonctionne très bien.
Ça, c'est un très beau livre. C'est effroyable comme.
Précieuses des marchandises.
La plus précieuse des marchandises. C'est assez effroyable. C'est un conte magnifiquement glaçant. Et ça part d'un désir d'une femme, on imagine en Russie ou en Pologne. Peut-être la Pologne, on ne sait pas où on est en fait, mais on comprend, en fait, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, et le désir de cette femme bûcheronne qui veut un enfant, et qui prie les dieux pour avoir un enfant, elle prie les dieux. Et c'est vraiment écrit vraiment avec le vocabulaire du conte pour enfance, sauf que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça se lit en un jour, mais c'est magnifique.
Et à chaque fois, dans toutes vos références, que ça soit musical, bon, littéraire, cette fois-ci, quand on parlait des documentaires, il y a la place de la femme qui semble extrêmement importante pour vous, très forte, en tout cas, la mise à l'honneur de femmes fortes. Je sais qu'on vous pose souvent la question, est-ce que vous êtes féministe? Et vous dites, ça va au-delà, en fait, c'est plus humaniste que féministe?
Non, je dis même que je suis féministe, je dis juste que je trouve... assez fou qu'on puisse ne pas l'être. Voilà. Pour moi, je ne comprends pas. Alors, évidemment, il y a plusieurs formes de féminisme, et peut-être qu'il y a certaines formes de féminisme dans lesquelles certaines personnes ne peuvent pas se reconnaître. Ça, je conçois. Mais par contre, j'arrive pas à comprendre comment on peut pas être féministe, parce que féministe, c'est humaniste. Féministe, c'est juste vouloir les mêmes droits que les hommes. Pas plus, pas moins. Donc, je vois pas comment. J'aimerais bien rencontrer la personne qui dit ah ben non, t'es une femme, t'auras moins, et c'est mieux comme ça.
Enfin, malheureusement, il y en a eu.
Hein. Oui, il y en a eu, et il y en a certainement encore. Mais je veux dire, c'est. Vous êtes obtus, vous êtes bête, vous êtes inculte, vous êtes ignorant, je peux le comprendre. Mais pour moi, il y a des femmes qui sont même très cultivées, très intelligentes, et qui disent ah non, moi je suis pas féministe, comme on dit, je suis pas socialiste, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir.
Et parce que souvent, elles connaissent pas le sens vraiment du terme, en fait. Parce que justement, oui. elles pensent à des combats un peu trop anti-hommes, ce que ça n'est voilà. pas, en fait.
Non, c'est pas anti-homme, c'est pro-femme.
Exactement.
Donc voilà. Donc moi, évidemment, je suis féministe et j'ai vraiment aucun problème à le dire.
Et on garde notre Olivier Pouls avec nous parce qu'on a toujours besoin
d'un
Olivier Pouls. Oui, oui, évidemment que vous êtes féministe. J'espère que vous n'avez pas trop faim, Imani, parce qu'Olivier Pouls va nous dévoiler une nouvelle recette et je ne sais pas comment il fait, mais dès qu'il parle, c'est nos ventres qui se mettent à gargouiller, qui pourraient faire un gospel. Auparavant, dernière parenthèse musicale avec un artiste aussi généreux que vous, Imani, M, et sur Europe 1 avec une chanson au titre génial, Grand Petit Con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con. Tout petit, tellement je suis un grand, grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con. Tout petit, tellement je suis un grand, grand petit con.
Je vous passe devant, j'étais là avant vous. Vous ne m'aviez pas vu? Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne. Je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con. Tout petit, tellement je suis un grand, grand petit con.
Un grand petit con.
C'est pas ce que je veux.
De la grande illusion, à volonté c'est l'or. Transformé en passion, qui n'oublie pas la voix. Lumineuse des anges, celle qui te dit tout bas. Prends l'amour sans échange, donne-le sans recevoir. Aime du matin au soir, et surtout n'oublie pas. Quand petit con c'est toi, quand petit con c'est moi. Quand petit con c'est toi, quand petit con c'est moi.
Grand petit con, c'est moi, Mathieu Chédid sur Europe 1. Et puis on va passer au conseil culinaire d'Olivier Pouls sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend.
Avec le club de l'été sur Europe 1.
C'est pas la classe, Olivier Pouls.
Aussi.
M, vous, Imani, enfin je veux dire, vous êtes.
Con, c'est pas pour moi,
non, c'est pas pour
hein.
vous, ah, ouais, mais c'est pas pour vous. Grand con. Alors, dernière séquence de cette Europe 1, Club de l'été qui est consacré à Imani. Imani, cette semaine, Olivier nous donne quelques conseils pour bien préparer nos pique-niques, mais juste avant, on n'a pas parlé de votre vrai faux qui intéresse Imani en l'occurrence. Est-ce que les légumes frais sont autant gorgés de vitamines que les légumes surgelés ou en bocaux?
Alors c'est vrai que c'est une grande question qu'on se pose. Imani me posait la question, il me disait, j'achète de temps en temps des légumes congelés, est-ce que je fais bien? Eh bien oui, vous faites bien.
On a gagné un point. On a gagné un truc.
Alors évidemment, les légumes, en fait, ce qui détériore les vitamines, c'est le frigo et c'est le transport. Et beaucoup de légumes qu'on trouve sur le marché, quand ils ne sont pas issus de circuits courts, ben ils ont voyagé. Et notamment, vous avez des tomates qui ont traversé la moitié de l'Europe, qui ont passé 3 jours sur la route, 4-5 jours dans des frigos. Et là, vous avez une déperdition de vitamines qui est terrible. Il n'y a pratiquement plus rien dedans. En revanche, la grande majorité des légumes qui sont congelés, ils sont congelés immédiatement après leur cueillette qui se fait à maturité. Et donc, la congélation permet de conserver les vitamines. Le mieux, c'est évidemment d'avoir des légumes que vous allez récolter directement dans votre jardin, si vous avez la chance d'en avoir un, ou en circuit très court, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas passé de temps dans les frigos notamment. Et là, vous êtes sûr qu'ils sont gorgés de sels minéraux et de vitamines. Mais sinon, c'est vrai qu'en hiver notamment, la consommation de légumes congelés ne pose aucun problème. C'est même très bon et il y a beaucoup de vitamines à l'intérieur.
Et les bocaux ?
Alors les bocaux, les légumes ont été cuits en général pour être mis en bocal. Ils ont aussi de la vitamine, mais c'est moins intéressant que va l'être le légume congelé qui est vraiment le plus riche parce qu'une fois encore congelé immédiatement après sa récolte. Et puis après, il y a la cuisson en réalité. Notamment quand on cuit des légumes dans des grands volumes d'eau, il faut savoir que beaucoup de vitamines sont ce qu'on appelle hydrosolubles, donc elles vont se dissoudre dans l'eau, elles vont partir avec l'eau que vous allez reverser dans votre évier. Donc la cuisson est très importante. Privilégiez une cuisson à la vapeur qui permet de mieux garder les vitamines ou de les faire sauter très rapidement. Là aussi, on enferme les vitamines et c'est meilleur pour vous.
Bah, très bien, merci beaucoup pour ces renseignements. Est-ce qu'on va mettre des légumes dans la salade dans laquelle on sera sûr de trouver en revanche?
Vivre d'amour, de musique et de riz complet.
Et de riz. Bon voilà, c'est une chanson toute pourrie que j'ai trouvée. C'est Nino Ferrer pourtant.
Ah ouais,
c'est la bande originale du film Les Babacool. Ouais. Bon, mais c'était juste pour une petite chanson avec le Mori. Voilà. Il y a Imani, elle me regarde avec des yeux en disant la fille est folle, quoi. Mais oui,
excellente idée parce que le riz complet, c'est évidemment un très bon riz. Et moi, je vous propose de faire un riz façon taboulé.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes ingrédients en gros, mais on ne va pas utiliser de semoule, on va utiliser du riz. Alors, quand vous faites un taboulé avec de la semoule, il n'y a pas besoin de la cuire parce que la semoule, elle se gorge, elle se gonfle avec.
Notamment le jus des tomates.
Voilà, le jus de tous les légumes que vous allez mettre dedans. Ça ne se passe pas avec le riz. Donc là, pour le coup, il faut le cuire à l'avance. Donc on le cuit traditionnellement en respectant la durée de cuisson habituelle. Un riz complet, je vous le conseille parce que une fois encore, c'est
meilleur. Ah ben je savais pas, oui, je vous ai trouvé cette petite chanson bébête.
Non, c'est très très bon pour la santé. Et puis on va partir sur qu'est-ce qu'on met dans un taboulé? Des tomates.
Des tomates, concombre.
Ouais.
Du thon.
Alors non, pas de thon dans un taboulé, ma chère Eva.
Ah,
alors,
dans le taboulé.
Peut-être dans le taboulé niçois.
Mais non, on met de la menthe et du persil dans le taboulé.
Voilà, quelques raisins secs, par exemple, des oignons émincés. On peut mettre un peu de poivron. Et on va surtout mettre beaucoup, beaucoup de légumes parce qu'on est en été et qu'on a moins besoin, finalement. Le riz va être un support. Alors, en été, il ne faut pas qu'il y ait trop de riz. Alors, ça devient un peu étouffe-chrétien. Donc, on va dire deux tiers de légumes et un petit tiers de riz. On prépare cette jolie salade qui aura un peu le goût du taboulé, mais avec la texture du riz différente. On met ça dans un joli tupperware et direction les calanques, où on va poser tranquillement
sa petite
serviette, sa petite nappe. On va sortir les jolis couverts et on va pique-niquer.
Et avec de l'huile d'olive, j'imagine,
avec,
en assaisonnement.
Évidemment, un petit peu d'huile d'olive en assaisonnement, sel, poivre. Et puis, on a toutes ces saveurs du Sud.
Ça vous donne envie, Imani?
Ah oui.
Petite salade de riz, riz complet. Vous y êtes. Je pense que vous avez besoin de vacances, Imani. Ouais.
Merci. Écoutez, moi, je préparais la salade de riz, puis vous chanterez à côté.
Ouais.
Ah, ça me va.
Merci infiniment, Imani. D'ailleurs, est-ce que vous seriez prête à nous dire au revoir en chanson?
En fait, je me suis rappelée. En fait, j'adore cette émission parce que j'ai toutes les réponses, mais après.
Mais vous êtes obligé de revenir demain.
C'est ma vie en ce moment. Ah mince, j'aurais dû dire ça. Et en fait, je me suis dit, mais elle m'a demandé ce que je chantais à ma fille. Mais oui, je chante des chansons à moi, ce qui était ultra mégalo à dire. Et c'est la vérité. Mais pas que, en fait. Je chante très souvent une chanson de Norah Jones qui s'appelle Don't Know Why.
Oh, j'adore.
Et si je dis pas n'importe quoi, je crois que c'est I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I played by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.
Merci, merci, merci pour ce cadeau. Voilà, Norah Jones.
Elle est endormie.
Même chance, votre fille.
Je veux bien être une enfant et me faire bercer par votre voix, il m'a dit. Nous étions très, très heureux de vous recevoir pendant ces deux heures de direct. Vous êtes à l'affiche du documentaire Olé Filles. Et puis le 18 octobre, vous sortez un nouvel album, un live enregistré l'an dernier au Casino de Paris, à retrouver en DVD et en CD. Les dates de vos prochains concerts sont disponibles sur votre site imanimusic.com et on les indiquera évidemment sur europe1.fr. Merci beaucoup d'avoir
merci
passé ces deux heures avec nous. On formule le vœu d'entendre longtemps votre voix. Lise Pressac et Olivier Pouls, rendez-vous demain, même lieu, même heure, avec une autre chanteuse. Elle s'appelle Rose, elle est niçoise. Je jure de ne pas faire du communautarisme. Promis. Je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff. En vous souhaitant une très très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain.